19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Si la Corse fait peu parler de son passé, c'est probablement que son actualité porte sur d'autres sujets bien plus brûlants. Et pourtant, depuis peu, de grandes découvertes archéologiques y sont réalisées. Une sublime tombe étrusque à Aléria, un étonnant sanctuaire voué à quelques cultes orientaux, le dieu Mithra à Mariana, la même où un musée est en train de sortir de terre, un beau baptistère et des quais napoléoniens à Ajaccio, sans oublier la grotte de Lano ou Vescovato, Bonifacio, Portovecchio, la liste est longue. Ce soir, mon invité est le plus fin connaisseur de cette archéologie insulaire. Après avoir dirigé l'archéologie, le voici désormais en charge de l'ensemble du patrimoine corse, Franck Léandri. Bonsoir.
Bonsoir Vincent.
Archéologue, conservateur en chef du patrimoine, ancien conservateur régional de l'archéologie, vous êtes désormais directeur de la direction régionale des affaires culturelles de Corse. Mais ce qui m'intéresse surtout, ce sont vos recherches qui portent sur un phénomène peu connu de la fin de la préhistoire, le mégalithisme. Menhirs et statues menhirs seront donc ce soir au cœur du magazine d'archéologie de France Culture. Vous venez d'ailleurs de publier « Le mégalithisme de la Corse, approche interactive » qui vient de paraître aux éditions Canopée. Franck Léandri, avant de plonger dans notre sujet, j'aimerais en savoir plus sur la dernière grande découverte corse, celle d'une tombe étrusque à Aléria. Nous en avons vu quelques poteries sans connaître la fin de l'histoire. Que portait la belle étrusco-corse qui était inhumée?
Bien sûr, l'histoire se poursuit puisque des équipes de l'INRAP sont en phase d'étude maintenant. Il faudra attendre presque 2 ans, je pense, 2 à 3 ans avant de restituer les résultats de leurs investigations. Quoi qu'il en soit, cette découverte n'est pas isolée puisque il y a quelques mois de ça, d'autres vestiges ont été mis au jour dans le voisinage immédiat et notamment une petite agglomération étrusque qui devrait être fouillée dans les mois qui viennent.
En lien même avec cette nécropole étrusque?
En lien probablement avec cette nécropole étrusque, puisqu'elle est datée de la même période, donc on est dans le 4e siècle.
Alors cette femme, elle était comment? Elle était parée de bijoux? J'ai entendu qu'elle portait des boucles d'oreilles d'or, des choses comme ça.
Elle était parée de bijoux, elle avait d'autres. Enfin, elle était accompagnée de mobilier de prestige. Maintenant, l'idée, c'est d'en savoir un peu plus sur sa biologie, sur sa génétique, savoir un petit peu d'où elle venait. On a mis en place toute une batterie d'analyses qui devrait permettre de nous restituer l'histoire de cette personne.
En tout cas, ça reste une grande découverte pour la Corse, parmi d'autres, mais une des grandes découvertes.
Oui, c'est une grande découverte puisque ça va nous permettre de réinterpréter totalement les travaux qui avaient été menés il y a une quarantaine d'années dans le voisinage sur la grande nécropole étrusque de Casabianne qui avait été fouillée avec les méthodes de l'époque. Donc grâce à la découverte de la Majone, on va pouvoir réinterpréter complètement cette grande nécropole voisine.
On a l'impression que l'archéologie s'investit d'un seul coup en Corse. On a Mariana, on a beaucoup de sites romains, on a un très beau site étrusque, on a du paléo-chrétien, on trouve beaucoup de choses, et même des choses récentes. J'évoquais les quais napoléoniens.
Oui, on trouve de façon diachronique, on va dire, des vestiges, depuis le premier peuplement de l'île autour de 8000 avant Jésus-Christ jusqu'à la période subactuelle avec la mise en place des quais napoléoniens que vous venez d'évoquer. Il faut savoir qu'en Corse, on a 4 musées d'archéologie labellisés Musée de France. C'est presque autant que la Bretagne, en tout cas, c'est presque autant que la Normandie. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt des Corses pour leur patrimoine.
8000 ans, c'est la date de l'arrivée de l'homme?
C'est 8000 ans, c'est la date de l'arrivée de l'homme, avec là encore des découvertes récentes. Il y a une dizaine d'années, la mise au jour de la sépulture de Campus Stefano dans la région de Solacaro, non loin du site de Philitos que tout le monde connaît.
Et dont nous allons parler. Le mégalithisme est un phénomène mondial, il émerge au cours du néolithique en Europe occidentale. On pense bien entendu au fameux monument breton du 5e millénaire avant notre ère. Débute-t-il au même moment en Corse ?
Alors, il débute pas tout à fait au même moment. On est plutôt vers la fin du 5e millénaire avant Jésus-Christ pour la Corse. Mais quoi qu'il en soit, on a identifié quelques critères de parenté, on va dire, avec ce qui s'est passé en Bretagne. On a identifié récemment, notamment, des figurations de crosse ou de hache polie qui sont similaires à ce qu'on peut avoir en Bretagne, par exemple, sur des grands menhirs ou à l'intérieur de tombes.
Et oui, le menhir du Bagnot, par exemple, avec ses crosses ou ses haches. Donc, on peut faire un lien.
Alors, le lien, on sait qu'il existe parce que ce sont des populations qui circulaient beaucoup dans toute l'Europe. Vous prenez un exemple, on le sait grâce à la circulation des matériaux à partir du silex, du Grand Précigny, qui est diffusé dans toute l'Europe. La Corse, pareil, a été touchée par ces circulations. On a des jadéites, des haches polies qui ont été probablement façonnées en Italie. C'est une période où finalement, il y a beaucoup de choses qui circulent et donc les idées aussi.
L'obsidienne
vient de Sardaigne, puisqu'on n'en a pas en Corse, mais il est diffusé jusque dans le nord de la Méditerranée, oui.
Quelles seraient les origines de ce phénomène mégalithique? Le continent ou tout simplement la Sardaigne qui est toute proche?
Alors écoutez, c'est probablement le continent, encore une fois, grâce à ces circulations d'idées. Il faut savoir que ce mégalithisme corse est quand même un mégalithisme à taille humaine, qui est assez de dimension assez restreinte. On n'a pas ces grands monuments comme on peut avoir sur le continent, mais on a des petits dolmens, on a des petits alignements de menhirs qui sont comparables à ce qu'on peut avoir dans le sud de la France notamment.
Où les plus anciens ont-ils été trouvés?
Les plus anciens dolmens de Corse ont été trouvés dans le nord, dans la région de la Griatte, au nord de la Corse, un endroit assez isolé aujourd'hui. Ils ont été mis au jour sur le site du Monte Revinc, donc c'est des monuments qui étaient connus depuis le 19e siècle. Et puis en 95, on a repris les fouilles sur ce gisement qui nous ont livré des résultats assez intéressants, on va dire totalement inédits.
À savoir?
Écoutez, on pensait jusqu'à présent que ce mégalithisme corse était plutôt tardif, qu'il commençait autour de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, avec les populations chalcolithiques. Et puis grâce aux travaux menés non seulement au Monte Revinc dans les Agriates, mais également dans la région de Sartène sur le site de Rinac, on s'est rendu compte que ce mégalithisme était beaucoup plus précoce, donc vers la fin du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Donc ce sont des travaux totalement inédits, menés par une équipe du CNRS, par André Dan dans la région de Sartène, puis par moi-même, bien sûr, avec mon équipe dans les Agriates.
Les premiers menhirs datent de cette époque?
Les premiers menhirs datent de cette époque. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi bien, c'est que dans le nord de la Corse, on a travaillé plutôt sur des dolmens, et dans le sud de la Corse, on a travaillé plutôt sur des menhirs, avec des résultats qui convergeaient. Donc on a des catégories de monuments qui apparaissent de façon synchrone sur la Corse, avec des points de convergence, encore une fois, vous l'avez évoqué, vers la Sardaigne, mais aussi vers le sud de la France.
Comment sont ces premiers menhirs?
Alors, ce sont des petits menhirs en général, qui font pas plus d'un mètre de haut. Ce sont souvent des menhirs bruts. On les retrouve en groupe. Ils sont probablement, enfin, certains d'entre eux sont associés à des tombes, notamment des tombes en coffre. Et ce sont encore une fois, ils sont répartis sur des lieux assez distinctifs dans le paysage, notamment en lien avec des sources ou avec des points topographiques remarquables.
Alors en préparant cette émission, je me suis aperçu qu'il existait deux grands groupes de menhirs aux chronologies très différentes.
Alors oui, vers la fin du 5e millénaire, on a, comme je viens de le dire, des petits menhirs, des petits groupes des groupes de petits menhirs. Et puis, plus on avance dans le temps, on aboutit à de grands ensembles mégalithiques, de grands ensembles de menhirs, de menhirs beaucoup plus hauts. C'est le cas notamment dans la région de Sartène, où on a identifié une dizaine de sites de cette typologie.
Donc, il y a plusieurs types de pierres dressées. Des menhirs, des stèles, des statues menhirs, des menhirs stèles, tout ça est un peu compliqué. Et à chaque fois, pour vous, ça paraît sûrement clair, mais ça correspond à une chronologie particulière?
Alors, la chronologie, elle est très simple finalement. On va du menhir brut à la statue menhir avec une évolution sur pratiquement 3 millénaires et demi. Voilà, donc ces petits menhirs, donc vers la fin de l'âge du bronze, donc autour 1200 avant Jésus-Christ, c'est l'aboutissement de ce phénomène des pierres dressées en Corse avec la réalisation des fameuses statues menhirs, donc des menhirs qui vont être taillés et sculptés à l'effigie de guerriers de l'âge du bronze.
Et cette évolution est relativement continue, c'est-à-dire qu'on produit systématiquement du menhir entre la fin du 5e jusqu'à vers 1200?
Alors oui, ce sont des sites qui ont fonctionné quand même pendant très longtemps, hein, pendant plus de 3 millénaires, on s'en est rendu compte. Ça, c'est un apport aussi des dernières recherches menées aussi bien dans le nord que dans le sud de la Corse. Donc ce sont des sites qui fonctionnent de façon très 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 longue, avec parfois des réaménagements, des recyclages, on va dire des recyclages, oui, de menhirs qui vont être transformés, qui vont être resculptés ou qui vont être sculptés à l'effigie, comme je viens de le dire, à l'effigie de guerriers. Donc ce recyclage des ancêtres était quelque chose d'assez aussi particulier aussi pour la Corse.
Où ces menhirs sont-ils implantés? Dans des endroits stratégiques?
Alors oui, ce sont des monuments qui vont être implantés sur des endroits stratégiques, des cols, des sources, enfin à proximité immédiate de points d'eau, sur des rives, des passages à gué, en rebord de plateaux. Donc c'est comme pour marquer l'appropriation d'une communauté sur un territoire. Voilà, c'est rien d'étonnant non plus. En tout cas, ça aussi, ça a été un des apports des dernières recherches. On a pu rétablir ce corpus des sites mégalithiques de Corse et puis établir la typologie de leur emplacement.
On a combien de menhirs en Corse à l'heure actuelle?
Alors, on a 140 sites mégalithiques en Corse qui totalisent 800 monuments. 800 monuments. À l'intérieur, vous avez plusieurs dizaines de groupes de pierres dressées. Certains sont plus ou moins bien conservés. Certains sont dans un état de conservation remarquable, notamment dans la région de Sartène, sur le plateau de Caour. Ou alors le grand alignement de menhirs de Palatch, qui est qualifié, on va dire, à mon avis, un petit peu abusivement de Carnac de la Méditerranée, puisqu'il totalise 250 menhirs. Donc voilà, c'est un site assez spectaculaire. Voilà, donc ces sites, écoutez, il y a toute une typologie. On sait qu'ils ont fonctionné pendant très longtemps et voilà, l'objet de l'ouvrage aussi permet d'approcher leur interprétation.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Franck Léandry, ce que l'on ne sait généralement pas, c'est que ce serait le Lot qui possède le plus de menhirs. Et puis, bien sûr, le Morbihan. 800 menhirs, ça fait beaucoup pour la Corse, hein.
Alors écoutez, oui, on ne fait pas une course non plus avec le Lot
ou
la Bretagne. Non, on ne fait pas une course, mais en tout cas, ce phénomène a été beaucoup plus important en Corse, on le sait, puisque au XIXe siècle, il y a d'autres, plusieurs dizaines de sites qui ont été identifiés et certains ont disparu, on ne les a pas retrouvés. Donc, il faut savoir que dans les années 50, avec l'émergence de la mécanisation de l'agriculture, il y a beaucoup de sites qui ont été probablement détruits. Donc, c'est un phénomène qui a dû être beaucoup plus important en Corse.
Ces menhirs sont-ils en lien avec des sépultures mégalithiques?
Oui, alors ces menhirs, ils sont associés souvent à des sépultures mégalithiques, des coffres, des dolmens, des cercles de pierre aussi, qui est une typologie de sites assez, on va dire, assez unique en Corse, quoi, les cercles mégalithiques. Donc voilà, toujours ce lien avec le monde des morts, bien sûr, mais aussi avec le monde des vivants, puisque les habitats, et ça aussi, ont été clairement identifiés pour certains de ces groupes de menhirs ou de ces dolmens, donc à proximité immédiate, en concordance, voilà.
Ce qui paraît très curieux, c'est que ces pierres dressées auraient toujours la même orientation?
Oui, alors, ça aussi, c'est quelque chose de particulier. Donc, ce sont toujours des sites orientés vers le soleil levant. Hein, bon, faut savoir qu'à cette époque, on le sait, tout ce qui est phénomène naturel a dû faire l'objet quand même d'imagination de la part de ces populations. Donc, c'est quelque chose d'assez récurrent, que les dolmens soient orientés vers le solstice d'hiver, que les sites de pierres dressées, les menhirs soient orientés face au soleil levant. C'est quelque chose d'assez récurrent.
Et sans exagérer, est-ce qu'il faudrait y voir quelques cultes astrales,
alors,
par exemple?
Alors c'est très intéressant, oui, la question que vous me posez, oui, ben forcément. Alors Petite parenthèse aussi, quelque chose qui a un lien, une découverte qui a un lien lointain avec le mégalithisme, mais on a identifié en Corse quelques pierres à cupules qui représentent clairement des ciels étoilés de l'époque de l'âge du bronze. Quoi. Ça, c'est aussi une découverte récente. Donc voilà, ce lien avec les astres, ce lien avec les étoiles, oui, on peut bien sûr l'évoquer pour ces populations.
Un peu le disque de Nebra trouvé en Allemagne avant l'heure presque, non? C'est ça?
Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, voilà.
Les statues menhirs de l'âge du bronze sont surtout connues. Que représentent-elles?
Alors, ce sont, on est à une période, donc la fin de l'âge du bronze, où au sein des communautés, des personnages qui ont un statut particulier émergent. Donc, ce sont des guerriers, des chefs, des aristocrates, on va dire, entre guillemets. Donc, il n'est pas étonnant qu'on ait réalisé des sculptures à leur effigie, quoi. Alors, c'est la période, de la fin de l'âge du bronze, c'est la période des grands mythes, hein, homériques, c'est la période de l'âge du bronze. De la guerre de Troie, donc c'est cette période-là que l'on retrouve illustrée sur ces statues menhirs, donc des figurations de guerriers avec des cuirasses, avec des épées, des casques à cornes, c'est quelque chose d'assez remarquable, quoi.
Et qui sont ces personnages? Des sortes de héros mythiques?
Ce sont probablement des divinités, des héros mythiques, ce sont des chefs locaux. En tout cas, c'est une période qui est assez troublée, assez mouvementée en Corse et en Méditerranée, hein, avec la circulation des matières premières. On sait que ces populations se regroupent à l'intérieur de petites fortifications avec des tours. Donc c'est une période assez belliqueuse, aussi bien en Corse qu'en Méditerranée. Donc il n'est pas étonnant qu'on retrouve, dans des guerriers sculptés, on va dire, sur les lieux de culte.
Ce phénomène me paraît aussi bien présent en France. On voit l'émergence de vraies fortifications. On serait sur une période particulièrement troublée, une période de guerre, de violence?
Oui, une période de guerre, une période de violence, une période d'échange, on va dire. Donc l'âge du bronze est connu pour ça quand même, hein, avec ces petites chefferies, ces conflits locaux. C'est une période, où il y a énormément de biens précieux qui circulent, hein, que ce soit le cuivre, que ce soit l'ambre de la Baltique, que ce soit des perles du Proche-Orient. Alors, il n'est pas étonnant donc qu'on ait toutes ces rivalités, ces conflits pour posséder toutes ces richesses.
42 statues posséderaient des armes. Quelle forme ont-elles, ces armes?
Alors, c'est une typologie d'armes qu'on retrouve au Proche-Orient. Hein, donc des grandes rapières mycéniennes. Donc elles sont sur les statues menhirs, elles sont disproportionnées. Elles ont des tailles beaucoup plus importantes que les figurations réelles pour les statues menhirs de la Corse. Donc ce sont des monuments emblématiques, hein, sur ces figurations, en tout cas qui démontrent bien tout le rôle que devaient jouer les guerriers dans ces communautés.
Et puis on voit l'émergence de la cuirasse, qui est d'ailleurs une cuirasse qui émerge à peu près à cette période un peu partout.
Oui, cuirasse avec des lanières, cuirasse donc que on a retrouvé quelques objets réels en Europe, mais pas en Corse, paradoxalement. On a également retrouvé des typologies de cuirasse comparables à celles figurées sur les statues menhirs sur des temples égyptiens, notamment le temple de Medinet Abou à Karnak.
Et toutes ces épées, par exemple, sont typologiquement caractéristiques de cette fin de l'âge du bronze, des années 1200 avant notre ère?
Oui, ce sont des épées. Alors, encore une fois, il faut faire attention, parce que les figurations que l'on a, ce sont des figurations qui sont assez érodées, hein, sur ces guerriers de pierre, donc des figurations très érodées, dans un mauvais état de conservation. Donc vouloir faire un rapprochement avec des objets réels, c'est pas non plus évident, enfin, quoi qu'il en soit, on arrive quand même à comprendre que ces épées viennent probablement du Proche-Orient.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que des armes?
Oui, on a également des figurations des attributs vestimentaires. On a également des représentations de bras, de mains. On a toujours des visages qui sont particuliers d'une statue à l'autre, comme si elles avaient un caractère un petit peu expressif, hein, donc ça, ça aussi, c'est quelque chose qui est, on va dire, à remarquer sur cette statuaire. C'est vrai que les plus beaux spécimens se trouvent sur le site de Filitos à Solacaro, une vingtaine de monuments identifiés sur ce gisement, puis également dans la région de Sartène, sur le site, sur le plateau de Cahoria. Mais ces dernières années, un autre groupe a été bien documenté, notamment dans le nord de la Corse, dans la région de la Grillade, puisqu'une vingtaine de monuments ont été identifiés, notamment lors de fouilles sur le site de Mamouch, à côté, non loin du Monte Erevin, que j'ai évoqué tout à l'heure.
En tout cas, ces stèles sont le reflet d'une forte hiérarchisation, l'emprise d'un groupe sur l'ensemble de la communauté, en poussant un peu, on pourrait dire, même une sorte d'instrument de propagande.
Tout à fait, oui, tout à fait. Ce sont probablement des instruments de propagande. Ils ne sont pas implantés n'importe où. Ils sont toujours implantés sur des lieux topographiques remarquables, hein, comme pour marquer l'appropriation, encore une fois, d'une communauté, sur le paysage, quoi. Et puis c'est des œuvres qui sont destinées, on va dire, à frapper l'imagination. Elles sont disposées de façon frontale. On les voit d'assez loin. Donc voilà, il y a un côté un petit peu, une espèce de mise en scène sur ces gisements.
Filitosa ou d'autres sites d'ailleurs, sont-ils des lieux de culte?
Alors, Filitos a un rôle un petit peu particulier, puisque les statues menhirs qui ont été identifiées se trouvaient en réemploi dans une fortification. Donc voilà, on ne sait pas très bien à quelle époque ces fragments de statues menhirs ont été introduits dans cette fortification. Quoi qu'il en soit, oui, probablement, ce sont des lieux de culte, c'est des lieux, en tout cas, sur lesquels on revient, ce sont des lieux qu'on va réaménager, ce sont des lieux où il a dû se pratiquer des rituels, ce sont des lieux aussi parfois en lien avec l'eau, avec toutes les vertus qu'on prête à l'eau aussi. Voilà, donc on peut dire que ce sont des lieux de culte qui ont vécu, en tout cas qui ont subsisté pendant plusieurs millénaires, avec, comme je le disais, le passage du simple menhir à la statue menhir et le réemploi de monuments.
Franck Léandry, j'imagine que vous recensez toutes ces sculptures, mais curieusement, on en découvre encore.
On en découvre encore. Alors, une belle découverte réalisée l'an dernier, la découverte d'une stèle avec la figuration d'un personnage mi-homme, mi-guerrier, personnage avec de très longues cornes, que l'on attribue au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, c'est un site qui est assez remarquable, hein. On a identifié sur ce site deux stèles, plus les restes d'un monument mégalithique. Donc, la stèle dont je viens vous parler, elle est magnifique, vraiment exceptionnelle, puisqu'elle fait la synthèse en reprenant des différents attributs iconographiques de la Méditerranée, que ce soit du Proche-Orient, du sud de la France ou de la Sardaigne. Donc, c'est une véritable synthèse culturelle iconographique.
Un homme cornu, ça paraît curieux quand même.
Alors c'est probablement, voilà, un homme cornu, donc c'est une divinité ou un guerrier, on ne sait pas très bien. Vous savez, c'est le rôle de l'archéologue de constater, on va dire, de décrire. Mais après, l'interprétation, bah écoutez, on se doit quand même d'être un petit peu prudent.
En tout cas, la Sardaigne est-elle aussi touchée par ce phénomène mégalithique?
Oui, la Sardaigne est touchée par ce phénomène mégalithique avec un nombre important de monuments, beaucoup plus important que la Corse. C'est un contexte qui est assez méconnu, mais enfin qui est assez remarquable quand même, avec toute une architecture dédiée au culte des eaux, notamment pour la période nouragique, avec des grands groupes de pierres dressées dans le centre de l'île, avec des monuments funéraires dans le sud de la Sardaigne à Pranumuted. Voilà, c'est des phénomènes qui est assez méconnu, mais qui existe bel et bien.
Et puis je crois que ces fameuses statues menhirs en Corse, elles sont en lien avec de petits bronzes que l'on trouve en Sardaigne.
Tout à fait.
Et du coup, on a une sorte de correspondance qui peut nous fournir des informations.
Oui, alors en Sardaigne, on a identifié notamment sur des lieux de culte des petites statuettes sardes qui s'appellent qu'on appelle les bronzetti, donc des petites statuettes qui font rarement plus de 30 à 40 centimètres de haut. Effectivement, les statues menhirs, certaines statues menhirs reprennent l'iconographie de ces guerriers avec des casques à cornes, des figurations d'épées, de boucliers, voilà. Mais on n'a pas en Sardaigne, on n'a pas cette grande statuaire de pierre comparable à la Corse.
La Corse possède 57 groupes de menhirs, dont 43 sont désorganisés. Prenons un exemple sur les alignements de Stantari. Nombre de blocs sont effondrés. S'agit-il d'un acte iconoclaste, contemporain donc de leur érection, ou tout au contraire, est-ce dû à l'épreuve du temps?
Alors c'est probablement dû à l'épreuve du temps, et là c'est l'archéologue qui parle. Certains voudraient voir aussi dans cette destruction, on va dire, les traces de la lutte de l'Église contre les adorateurs de pierre, notamment au 4e, 5e siècle, et puis même à l'époque médiévale. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on assiste sur certains sites de pierres dressées, on a des phénomènes de destruction qu'on a du mal à situer chronologiquement.
En tout cas, on en retrouve dans des églises.
Oui, on en retrouve dans des églises. Alors ça, c'est quand même c'est un véritable fait archéologique. Dans certaines églises, notamment du côté de Sagone, on a introduit des fragments de statues menhirs sur des endroits particuliers de l'église, notamment aux angles et puis à l'entrée. Donc, il s'agit de trois fragments de statues menhirs, probablement mis au jour dans le voisinage proche.
Et puis, que sait-on sur l'âge du bronze? J'ai vu récemment une très belle découverte, celle de cercueil de l'âge du bronze, donc, dans la grotte de l'Anneau.
Alors, c'est une découverte.
Deux mots?
Oui, deux mots là-dessus. Découverte effectuée par des spéléologues. Donc, on a fouillé ce site pendant 3 ans, dans des conditions géographiques particulières. Donc, nous sommes à flanc de falaise, une petite cavité perchée. Et les vestiges, maintenant, ont été déposés. Il s'agit de coffres en bois et qui seront exposés très prochainement à Sartène au musée. Ils ont des pièces exceptionnelles.
Franck Léandry, dans quelles conditions ce phénomène mégalithique disparaît-il? Durant la fin de l'âge du bronze, vers l'an 1000 avant notre ère?
Bon, écoutez, ça disparaît probablement durant l'âge du fer. On sait que ce sont quand même des lieux qui sont fréquentés. On sait qu'il y a des réminiscences, on va dire, ces sites sont également fréquentés avec des croyances occultes durant la période médiévale et moderne. En tout cas, voilà, on a quelques éléments à ce sujet.
Franck Léandry, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Le mégalithisme de la Corse, approche interactive, paru aux éditions Canopée, réseau de création et d'accompagnement pédagogique de la Corse. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Claude Nior, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons d'autres temps, d'autres lieux.